Dimanche midi, le magazine d'information hebdomadaire de la rédaction centrale radio de la CRTV.
Édition du 1er décembre 2024. Une présentation de Florence Mecque. À démocratie exemplaire, disposition particulière.
Les élections qui vont venir sont trop sérieuses et il faut faire très attention.
En anticipant sur les irrégularités, en permettant la transparence dans les opérations électorales, en permettant que les partis politiques de l'opposition puissent avoir suffisamment de moyens pour s'exprimer, tout cela est de nature à équilibrer le rapport de force structuré. Sinon, les frustrations peuvent occasionner des dérapages qui ne sont pas de nature à faire des élections transparentes.
ELECAM est à pied d'œuvre pour aménager un terrain favorable à l'expression du jeu démocratique au Cameroun lors de la présidentielle 2025 et des élections législatives et municipales 2026. Premier point d'achoppement à démanteler, le faible engagement des femmes, des jeunes et des minorités dans le processus électoral.
Il est hors de question que les femmes représentent 51% de la population et qu'on continue de constater leur faible taux d'inscription sur les listes électorales. Elles doivent s'investir.
La femme, c'est l'acteur principal du Cameroun et tant qu'elle sera mise de côté, on ne pourra pas parler de développement parce que sans les femmes qui sont les plus nombreuses, il n'y a pas d'effectivité de démocratie.
Peu au niveau des questions orales aux membres du gouvernement, il y a très peu de femmes qui se lancent. Elles sont là, mais apathiques. Ça montre bien qu'elles ne se sentent pas encore totalement intégrées dans la dynamique politique dans le pays. La société n'est pas encore totalement prête à l'implication dynamique et forte des femmes en politique.
Que les femmes aient le sentiment que leur participation dans le processus électoral peut changer les choses.
Concertation politique autour d'une plateforme pour des élections apaisées. Pour quelle efficacité? C'est l'événement dans Dimanche Midi, édition du 1er décembre 2024. Notre invité, l'honorable EPO Clémence Fleur, membre du Conseil électoral d'Elections Cameroun.
Nous, à ELECAM, nous pensons que les partis politiques ne font pas assez à l'égard de leurs militants. Ils sont à la recherche de suffrages. Les partis politiques doivent former, éduquer leurs militants pour que le jour dit que ces militants expriment des suffrages valables. La crédibilité d'ELECAM se fera avec les autres acteurs du processus électoral.
Le discours haineux comme hypothèque à la cohésion sociale et à l'expression démocratique. Rendez-vous en page jaune de dimanche midi pour le dossier de la rédaction. En année préélectorale, un code d'honneur langagier s'impose à tous les acteurs sociopolitiques.
Les discours hier se propagent beaucoup plus en période électorale pour des raisons évidentes. Nous avons des entrepreneurs politiques qui n'ont pas de programme politique, mais qui descendent plus sur des backgrounds, des tribus, des personnes. 2018, on a été surpris des médias sociaux. Et en 2025, on doit corriger ce phénomène pour qu'ensemble, on peut avoir des élections non seulement paisibles, mais acceptables pour tous.
Sur le terrain de la sensibilisation, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme occupe l'espace dans la diaspora camerounaise. Explication de texte et de contexte avec Dr. Chi Cornelius Assafor, secrétaire général de la CNPBM.
Une année électorale vient avec un certain nombre de mots, dont la recrudescence du discours de haine et la xénophobie. Conséquence parfois l'instrumentalisation de certaines politiques indélicats. La Commission en a pleine conscience et s'apprête à intensifier et à densifier sa stratégie de lutte contre le discours de haine et la xénophobie au Cameroun au cours de l'exercice 2025. La Commission compte accroître leurs moyens de déploiement et d'intervention sur l'ensemble du territoire national.
Entre la première et la seconde heure du dimanche midi, informez-vous sur les derniers rebondissements de l'actualité.
Le JDM.
Le JDM à 13h. Aujourd'hui, dimanche, les rendez-vous cultes de dimanche midi. Le commentaire de la rédaction sous le toit du nouvel immeuble de l'Assemblée nationale à Yaoundé siège une coopération agissante entre le Cameroun et la Chine. Fréquence gouvernementale, quand la formation professionnelle des jeunes alimente le dialogue institutionnel entre le Parlement et le gouvernement. Conversation avec mon voisin, capture des faits de société sous forme d'éphémérides. Valérie Dicos ou Marou.
Allez dans une administration et demandez un renseignement. Si on vous répond, parce que parfois on ne vous répond même pas, si on vous répond, c'est avec une agressivité incompréhensible. Dans la rue, dans les marchés, dans les hôpitaux, sur les réseaux sociaux, la violence verbale atteint des sommets. Après la lutte contre les violences faites aux femmes, on doit lutter contre les violences, quelles qu'elles soient.
Performance, 4 jours d'activité pour célébrer les noces d'or entre le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale et le développement local. Du 2 au 5 décembre 2024, l'événement est placé sous le très haut patronage du chef de l'État. Entretien à cœur ouvert avec Camille Philippe Akwa, directeur général du FEICOM.
Monsieur le directeur général, qu'est-ce que vous célébrez un demi-siècle plus tard?
Ces 50 ans, il faut d'abord le dire, sont placés sous le très haut patronage du président de la République. Le processus de décentralisation est arrivé, le FEICOM s'y est intégré et s'y trouve véritablement à l'aise parce qu'il est dans le cadre d'une mission fondamentale qui lui a été confiée par la loi communale de 1974. Donc nous sommes à un niveau où nous pensons qu'il faille véritablement réfléchir. C'est pour cela que vous voyez cet ensemble d'activités intellectuelles.
Sport, championnat de football professionnel, démarrage au petit trot après une pause quasi interminable. Ce sera le dernier exercice de dimanche midi. Mesdames, messieurs, dimanche midi, c'est tous les dimanches de midi à 14h. 120 minutes de décryptage des faits marquants de l'actualité de la semaine avec ceux qui font l'événement. Sous le prisme de la rédaction centrale radio et son réseau régional de correspondants. Merci, mesdames, messieurs, de rester fidèles au poste national de la CRTV.
Dimanche midi, une présentation de
Florence Moqueux.
Le commentaire de la rédaction.
Tout le monde en parle. Futuriste est le nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale du Cameroun. Flamboyant est le joyau architectural dont la ville de Yaoundé vient de s'enrichir. Au nom du chef de l'État, Paul Biya, le très honorable Kava Yégué Djibril, président de l'Assemblée nationale, a procédé samedi à l'inauguration officielle de ce nouveau fleuron de la coopération sino-camerounaise. C'était en présence du vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Zhang Qinhui. Au regard des retombées de cette coopération agissante avec ce pays ami, il y a lieu de se féliciter de l'acquisition de ce bel édifice, dont sans contrepartie, de la République populaire de Chine. Le commentaire de la rédaction dans Dimanche Midi, Joseph Clément Oumba.
Tout neuf et tout beau, depuis le samedi 30 novembre 2024, le nouveau palais de l'Assemblée nationale, construit au quartier Ngouaïkili à Yaoundé, est désormais inauguré. L'immeuble siège de l'Assemblée nationale a fière allure, s'imposant désormais comme l'un des plus beaux bâtiments de la ville de Yaoundé. Ajoutant du charme à la cité aux sept collines, il a complètement métamorphosé la physionomie de cette partie de la capitale camerounaise. Dans le détail, on retrouve quatre grands bâtiments, le plus haut avec 15 niveaux, dont un sous-sol et le bloc administratif, avec des bureaux décents pour tous les 180 députés. Au centre du complexe, un nouvel hémicycle disposant de 520 places assises, puis quatre grandes salles pour les commissions. À l'extrême droite, une salle des banquets de 600 places pouvant servir à des usages multiples. Plus loin, un bâtiment des sapeurs-pompiers qui éloigne désormais le spectre d'un grave incendie comme celui qui avait consumé l'ancien immeuble. L'ancien hémicycle a été entièrement réhabilité et rénové. Il tient désormais de musée parlementaire comme un gardien du temple, bien incrusté dans l'édifice et qui permet de ne pas effacer l'histoire parlementaire du Cameroun, l'histoire de notre pays tout court. Tout l'ensemble est compris dans un espace de 9 hectares et demi, dont 40 000 mètres carrés construits, des jets d'eau, de beaux aménagements paysagers avec de belles fleurs. Pour y arriver, on a dû déloger le groupement d'escadrons mobiles de la gendarmerie nationale. L'ancienne résidence du président du Conseil économique et social a été détruite. L'on a également récupéré plusieurs autres espaces. Le complexe est futuriste et entièrement fonctionnel dans le contexte d'un parlement bicaméral. En cas de congrès, le nouvel édifice peut accueillir en toute sérénité le Sénat et l'Assemblée nationale. En cas de prestation de serment du président de la République, plus de soucis à se faire pour l'espace. Le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, les deux chambres du Parlement et le gouvernement peuvent s'y réunir sans préoccupation des disponibilités d'espace. L'immeuble est totalement beau et moderne, au point qu'on s'interroge sur sa maintenance, qui a souvent été le ventre mou de nos bâtiments publics. À l'Assemblée nationale, on rassure, le volet maintenance n'a pas été oublié. L'on va bénéficier pendant 4 ans d'un encadrement des techniciens chinois qui vont aussi former des nôtres qui prendront le relais. Espérons simplement, Florence, qu'on va passer ici de la parole aux actes. En attendant, réjouissons-nous de ce joyau architectural.
En élargissant notre champ visuel au-delà du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale, il peut être loisible d'admirer d'autres investissements chinois visibles dans le périmètre national. Joseph Clément.
Vous l'avez dit, Florence Meque, ce joyau architectural est le symbole d'une coopération agissante entre le Cameroun et la République populaire de Chine. Déjà son inauguration nous a permis d'accueillir en terre camerounaise l'une des personnalités les plus influentes de la République populaire de Chine, M. Zhang Qingwei, vice-président du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire de Chine. Quelques mois seulement après la 8e visite du président Paul Biya dans l'Empire du Milieu, le chef d'État a pris part en septembre dernier au forum de coopération Chine-Afrique, rencontrant au passage son homologue chinois Xi Jinping. Les investissements chinois au Cameroun ne se comptent plus. On parle aujourd'hui du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale, fruit d'un don sans contrepartie de la Chine pour un coût estimatif de 54 milliards de francs CFA. Un bon pactole. Avant cela, il y a le palais des congrès de Yaoundé, inauguré en 1982, le palais polyvalent des sports de Ouarda, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, puis celui de Douala, le barrage hydroélectrique de Lac d'Eau, le barrage hydroélectrique de Memveleu, celui de Mekine, et même la construction d'autres immeubles qui font la fierté de la capitale camerounaise, comme la finalisation de l'immeuble ministériel numéro 1 ou encore le nouveau bâtiment de la Direction générale des impôts. On en est fier et on peut tout simplement conclure en disant merci la Chine.
C'était le commentaire de la rédaction, Joseph Clément Oumba. Les institutions de la République s'accordent pour donner de l'allant et de l'élan à l'employabilité de la jeunesse camerounaise et à son insertion dans le monde économique. En témoigne l'audience accordée cette semaine par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté, à la forte délégation des parlementaires, tous membres de la commission éducation, formation professionnelle, sous la conduite de l'honorable Gabriel Fanza, président de la dite commission. Focus sur ce bel exemple de dialogue entre le gouvernement et le Parlement sur les questions d'intérêt national. Fréquence gouvernementale dans Dimanche Midi, Laurentine Boukounou.
Revue à la baisse du coût de la formation professionnelle, soit 50 000 francs CFA par élève et par année scolaire. La décision du président de la République Paul Biya s'avère salutaire pour les parents ainsi que pour les enfants de plus en plus nombreux à prendre leur inscription dans les centres publics de formation professionnelle au Cameroun. Le nombre de candidats au concours d'entrée est passé du simple au triple depuis l'année de formation 2022-2024. Aussi, les acquis restent-ils à consolider cependant que de nouveaux chantiers sont explorés compte tenu de la nécessité de booster le taux d'insertion de la jeunesse, objet de la préoccupation des élus de la nation.
29 recommandations, 4 résolutions et décisions ont été adoptées entières par la Chambre compte tenu de l'importance du sujet qui tourne autour de l'employabilité de la jeunesse et de leur insertion dans le monde économique.
Honorable Gabriel Fandja, président de la Commission éducation et formation professionnelle à l'Assemblée nationale.
Il a été observé que ce taux, s'agissant du taux d'employabilité d'insertion, sont des taux très faibles. Le président de l'Assemblée nationale transmet ses recommandations au chef de gouvernement et nous, membres de cette commission, compte tenu de l'importance de ce sujet en tant qu'élus du peuple, nous avons sollicité rencontrer le chef de gouvernement pour insister sur l'implémentation, n'est-ce pas, de ces résolutions visant essentiellement à booster la formation professionnelle dans notre pays et à améliorer le taux d'insertion de cette jeunesse. Le chef de gouvernement, très sensible à cela, travaille pour améliorer ce taux. Et ce qu'il nous a dit, ça nous a également réconforté.
Au plan social, l'action publique vise prioritairement à intensifier la formation technique professionnelle. Cela est de nature à rassurer les élus du peuple.
C'est toute l'attention que le chef de l'État, son excellent Paul Biya, réserve à ce sujet et pour illustrer son propos. Il nous a fait comprendre que très souvent, pour les lycées techniques, le chef de l'État lui demande d'aller les inaugurer personnellement, ce qu'il n'a jamais fait s'agissant des lycées d'enseignement général. Et il nous a également promis, en fonction de son agenda, d'être disponible, n'est-ce pas, tous les 6 mois, qu'on puisse le rencontrer pour évaluer l'implémentation de ses recommandations pour lesquelles il va mettre en place un comité devant travailler avec le département en charge de l'emploi et la formation professionnelle, évidemment avec la commission en charge de ces problématiques à l'Assemblée nationale.
Aujourd'hui, plus que jamais, la demande sociale se fait très pressante en termes d'emploi et d'auto-emploi. La mutation vers les enseignements pratiques s'impose dès lors comme un impératif catégorique sans pour autant perdre l'âme de l'économie des savoirs. C'est à cet équilibre académique que tient le renouveau pédagogique au Cameroun. Il est heureux de voir les députés faire chorus avec le gouvernement pour cette noble cause. Fréquence gouvernementale dans Dimanche Midi, Laurentine Boukounou, CRTV.
Midi.
Dimanche midi.
Dimanche midi. Dimanche midi, l'événement.
Le dialogue politique est en mode actif au Cameroun. Elections Cameroun et les autres acteurs du processus électoral s'accordent à régler leur violence sur la plus haute note du solfège politique pour des élections crédibles et apaisées en 2025 et 2026 au Cameroun. C'est le cœur de l'événement dans Dimanche Midi, édition du 1er décembre 2024. À la faveur de la deuxième édition de la plateforme nationale de concertation entre les différentes parties tenues cette semaine à Yaoundé, leaders politiques et acteurs de la société civile ont pris l'engagement de prévenir les violences et la désinformation afin d'éviter toute dérive lors des prochaines consultations électorales. Regard croisé dans ce reportage que signe Ibrahim Mohamed Abassi.
Pour des élections apaisées en 2025 et 2026 au Cameroun, la sincérité de toute la chaîne est recommandée. Souhait de tous les acteurs du processus électoral à l'issue des travaux de cette concertation. Elections Cameroun et les autres parties prenantes renforcent leur collaboration pour une meilleure organisation. Professeur Prosper Kumbondo, président national du parti Univers.
Nous attendons que les résolutions qui ont été formulées ici soient effectivement mises en œuvre. Et pour cela, nous devons attendre beaucoup de choses des autorités habitatives, parce que celles-ci ont effectivement leur rôle à jouer dans le cadre du processus électoral. Que ces autorités lèvent les nombreuses barrières dans la pratique que nous rencontrons souvent, surtout nous qui sommes des partis de l'opposition. Tout donne l'impression que certaines autorités ne sont là que pour protéger un régime en place. Et nous le disons justement pour le dénoncer. C'est déjà le dialogue, mais c'est aussi le respect des lois et des règlements. C'est le respect de l'autre. Savoir écouter, savoir comprendre que quelqu'un peut avoir un problème. Et lorsqu'on est une autorité publique, il faut savoir écouter pour apporter des solutions. Pas de façon totale, mais essayer quand même de faire quelque chose, faire comprendre aux citoyens qu'ils sont dans un pays et que leurs problèmes sont pris en charge.
Un dialogue permanent est ainsi établi entre les maillons de la chaîne qui sont appelés à travailler en synergie afin d'éviter les dérives. Garga Hamad Hadi, président national de l'Alliance pour la démocratie et le développement.
Excellente initiative parce qu'on dit que le linge sale se lave en famille. Et les acteurs d'un côté comme ceux de l'autre, en se rencontrant, finissent par modeler leur vie commune. Et si on le dit et on le demande, c'est parce qu'on sait que d'un côté comme de l'autre, il y a des tricheries. Et que les tricheries créent des frustrations. Et les frustrations amènent des vulnérabilités et même des manifestations. Pour prévenir cela, on dit, venez vous rassembler. Si c'est honnête, c'est une très bonne chose. Mais si c'est malhonnête, c'est pour écouter la position des uns et aller savoir comment l'exploiter. Les élections qui vont venir sont trop sérieuses pour passer inaperçues. Et il faut faire très attention.
Les élections crédibles et transparentes passent par la mise en œuvre de résolutions issues de cette deuxième plateforme nationale de concertation permanente entre ELECAM et les autres acteurs du processus. Anissé Ekane, président du Manidem.
Nous espérons que les plaidoyers qu'on a fait ici puissent avoir un écho favorable auprès de l'exécutif qui fait des projets de loi pour éviter que ça ne dérape lors des consultations électorales. Le bon sens va prévaloir et que les défis qu'on a relevés pour des élections transparentes et démocratiques seront prises en compte par l'exécutif. En anticipant sur les irrégularités, en permettant la transparence dans les opérations électorales, en permettant que les partis politiques de l'opposition puissent avoir suffisamment de moyens pour s'exprimer. Tout cela est de nature à équilibrer le rapport de force structurée. Sinon, inévitablement, les contestations, les frustrations peuvent occasionner des dérapages qui ne sont pas de nature à faire des élections transparentes.
Les personnes vivant avec un handicap plaident aussi pour plus de considération. Toutes les opérations du processus électoral doivent prendre en compte leurs conditions, ce qui permettrait de prévenir les violences. Coco Bertin, directeur général du club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun.
Il y a un travail de sensibilisation à faire pour avoir des élections paisibles dans notre pays. Ces outils de sensibilisation concernent les personnes handicapées, non seulement celles déficientes visuelles comme moi, mais aussi d'autres types de handicaps. On a parlé de la nécessité d'avoir un système de communication qui peut permettre aux sourds-muets de bénéficier des informations. On a parlé de la production des documents en braille. Et là, on le fait déjà, mais on pourrait le faire davantage, qu'il y ait une réelle prise en compte des personnes handicapées.
Les concertations permanentes entre l'ECAM et les autres acteurs du processus électoral restent pour les leaders politiques et membres de la société civile des cadres de consolidation et de renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble harmonieux au Cameroun.
C'était un reportage de Ibrahim Mohamed Abassi. Où sont les femmes? Leur engagement et celui d'autres couches vulnérables au processus électoral au Cameroun reste faible, très faible. Le président du Conseil électoral d'Elections Cameroun et les autres acteurs politiques l'ont relevé pour proposer des correctifs. En tout état de cause, une attention particulière mérite d'être portée sur l'effectivité d'un engagement républicain. Augustine Bassam.
Les femmes au Cameroun constituent un poids démographique considérable. Les dernières statistiques parlent de 51% de la population camerounaise. Mais malgré cette forte représentativité nationale, l'on note leur faible participation dans le processus électoral. Dans ce peloton, elles sont suivies par les jeunes, les personnes handicapées, les minorités, les peuples autochtones et des groupes marginalisés. Toute chose inacceptable, selon la présidente de l'ONG More Women's in Politics, professeur Justine Diffo.
Les femmes à tous les niveaux et les jeunes en âge de voter doivent s'inscrire massivement sur les listes électorales pour pouvoir contribuer de façon consciente à l'élection présidentielle de 2025. Il est hors de question que les femmes représentent 51% de la population et qu'on continue de constater leur faible taux d'inscription sur les listes électorales. Elles doivent s'investir. D'abord, l'engagement politique, c'est avant tout un engagement citoyen. C'est un engagement à participer aux affaires de la cité et chemin faisant. On acquiert de la connaissance, on acquiert de la compétence, on acquiert aussi de l'étoffe.
Les barrières, selon la présidente nationale de l'Union démocratique du Cameroun, UDC, sont multiples. Honorable Patricia Thomaï-Nundamdjoya.
Dans notre pays, c'est plus de 51% de la population et les femmes sont les plus organisées. Donc, du point de vue démocratique, qui est le pouvoir au peuple? Les femmes devraient être parmi celles-là qui décident au Cameroun. Malheureusement, on se rend compte que quand il y a par exemple le fichier électoral comme là maintenant, il y a une liste provisoire, le nombre de femmes n'est pas correspondant à la démographie féminine. Le problème, il est là. Les femmes n'ont pas de CNI, n'ont pas assez de moyens physiques, financiers, les moyens humains parce qu'elles sont prises par les charges domestiques à la maison, champêtres aussi. Elles n'ont pas le temps physique, matériel d'aller se faire inscrire. La femme, c'est le socle de la famille. C'est l'acteur principal du Cameroun. Et tant qu'elle sera mise de côté, on ne pourra pas parler de développement parce que sans les femmes qui sont les plus nombreuses, il n'y a pas d'effectivité de démocratie.
Pour le président du Manidem, l'insuffisance, voire l'absence d'une éducation électorale des citoyens sur leurs droits, devoirs et responsabilités civiques seraient des freins à la pleine participation des uns et des autres au processus électoral. Anissé et Kané.
Le contexte social de notre pays n'offre pas beaucoup d'opportunités aux femmes de faire de la politique. Une véritable participation des femmes dans un processus électoral impliquerait que la démocratie se développe davantage, que les femmes aient le sentiment que leur participation dans le processus électoral peut changer les choses. Quand on regarde la représentation des femmes au niveau du Parlement, elle a sensiblement augmenté, mais ce n'est pas terrible. Et en plus, regardez un peu au niveau des questions orales aux membres du gouvernement. Il y a très peu de femmes qui se lancent. Elles sont là, mais apathiques. Ça montre bien qu'elles ne se sentent pas encore totalement intégrées dans la dynamique politique dans le pays. La société n'est pas encore totalement prête à l'implication dynamique et forte des femmes en politique.
Un avis partagé par More Women in Politics. Professeur Justine Diffo.
La faible participation des femmes au processus électoral est devenue une question très préoccupante. Les femmes représentent au moins 51% de la population. Si ce poids démographique pouvait par miracle être traduit en poids électoral, ce serait une chose formidable. Nous pensons qu'il faudrait que nous mettions l'accent sur le renforcement de la sanction sensibilisation, sur l'éducation à la citoyenneté, sur les actions qui pourront conduire les femmes à une meilleure prise de conscience de leur rôle en tant que citoyenne, de leur rôle en tant que militante.
L'honorable Patricia Tomaino Ndamdjoya de l'UDC pense à une prise en compte de la condition des femmes.
Il faut déjà que les femmes puissent être protégées. Il faut qu'elles puissent être détentrices de leurs droits. Je pense à la protection de la famille. Les femmes doivent avoir un coach qui les protège. Les femmes sont des fois victimes de sexisme dans le cas de la famille, des violences domestiques par exemple. Donc il faut qu'il y ait des lois qui protègent les femmes. On ne parle pas de la discrimination, mais on parle tout juste d'égalité de droits et de protection. Donc nous n'avons pas un coach de la famille. Et les femmes sont celles qui sont les plus marginalisées. Loi contre les violences sexistes, contre les violences domestiques. Les femmes, n'importe comment, économiquement, elles ne peuvent pas s'épanouir si elles n'ont pas ces droits-là. Donc, c'est pour ça que, du point de vue électoral, il faut que ce soit clair qu'il faut veiller. Plus de 75% des femmes vivent en zone rurale. Les zones rurales sont difficiles d'accès. Les conditions de vie ne permettent pas de pouvoir se lever, prendre une voiture. Il n'y a pas de route pour aller s'inscrire dans les antennes de l'ECAM.
Pour le président du Conseil électoral d'Elections Cameroun, les uns et les autres devraient placer au sommet des priorités la sensibilisation de toutes les couches de la société, la consolidation de la confiance entre les parties prenantes et la réduction des risques électoraux grâce à un engagement inclusif. Tous ces efforts, selon Eno Abrahams-Igbe, pourraient garantir un environnement apaisé pour des élections crédibles et transparentes au Cameroun.
Dimanche midi, face à la rédaction.
Dimanche midi reçoit ce dimanche en posture d'invité et pour Clémence Fleur, membre du Conseil électoral d'Elections Cameroun. Bonjour, honorable membre.
Bonjour, madame.
La deuxième édition de la plateforme nationale de concertation permanente entre ELECAM et les autres acteurs du processus électoral vient de s'achever à Yaoundé. Quelles recommandations phares à retenir au sortir des travaux de Yaoundé?
Merci, madame, pour la question que vous posez et qui est pertinente à plus d'un titre, parce que j'imagine que vous êtes le relais de l'opinion publique qui se demande qu'est-ce que ELECAM a encore organisé et qu'est-ce qu'il en est sorti. De façon sommaire et sans être exhaustive, les recommandations issues de cette deuxième édition de la plateforme permanente de concertation entre ELECAM et les autres acteurs du processus électoral concernent, entre autres, la nécessité d'inclure effectivement les personnes socialement vulnérables, l'urgence et la nécessité de rendre plus dense, d'intensifier la participation des femmes au processus électoral et l'implication effective des autres acteurs du processus électoral, notamment les partis politiques, la société civile, l'administration et la justice.
Au sujet de l'implication des partis politiques, que reprochez-vous aux leaders de ces formations politiques? De ne pas participer suffisamment, de ne pas être impliqués dans le cadre des différents processus électoraux?
Nous, à ELECAM, nous pensons que les partis politiques ne font pas assez à l'égard de leurs militants qui sont à la recherche des suffrages. C'est vrai, c'est en un jour généralement que ça se déroule, mais c'est un processus qui se déroule avant, pendant et après les élections. Donc il y a une espèce de vacuité de la connaissance des élections, du processus électoral d'une manière générale. Les partis politiques doivent former, éduquer leurs militants pour que le jour dit, c'est-à-dire le jour de l'élection, que ces militants expriment des suffrages valables.
À l'aune du cycle électoral 2025-2026, cette concertation, honorable membre, suffit-elle à dissiper le climat de méfiance qui existe entre ELECAM et les partis politiques dits de l'opposition qui vous accusent par ailleurs de faire preuve de partialité?
Je ne vais pas répondre à ceux qui nous accusent d'emblée, mais je voudrais dire que là, nous venons d'organiser la plateforme de concertation nationale. Mais il y a peu de mois, nous avons organisé dans les 10 régions du Cameroun, au niveau local, des plateformes de concertation. dans les 10 régions, nous étions présents, nous avons tenu le même langage. Nous devons être en collaboration pour que le processus électoral se déroule bien, pour que nous ayons des élections inclusives, pour que personne ne reste de côté, pour que nous ayons des élections crédibles. Parce que dans le cadre des inscriptions, même sur les listes électorales, ce sont les commissions mixtes qui sont composés à la base de partis politiques, des représentants des partis politiques, de formations politiques, de l'administration, de la justice, le cas échéant, et puis du représentant de l'ECAM. Donc, dès la base déjà, je ne voudrais pas dire que ce sont des accusations portées de mauvaise foi, mais il faudrait reconnaître que dès la base déjà, Elections Cameroun inclut tout le monde. Elections Cameroun discute avec tous les autres acteurs du processus électoral. Nous passons le temps à sillonner le pays, les 10 régions, et même à l'étranger, parce que cette année, nous avons été dans nos missions diplomatiques pour les inscriptions, et nous avons tenu le même langage d'apaisement, nous avons tenu le même langage de rassemblement autour d'une table pour dialoguer. Toute œuvre humaine est perfectible. Et s'il y a des choses, ou s'il y a des manquements à l'endroit qui sont reprochés à l'ECAM, c'est le moment maintenant, avant que les esprits ne s'échauffent, avant les élections, pour apporter certaines corrections.
Vous œuvrez pour un climat électoral apaisé, dépouillé de toute violence, mais cela passe aussi par l'organisation des élections crédibles. Quelles sont aujourd'hui les garanties que donne Elections Cameroun pour un processus électoral juste et transparent?
Je voudrais vous dire que la crédibilité de l'ECAM se fera avec les autres acteurs du processus électoral. Parce que tout seul, l'ECAM ne construit pas sa crédibilité. L'ECAM apporte le dialogue autour de la table et nous nous mettons ensemble pour construire les éléments de crédibilité et de transparence. Donc si quelqu'un refuse de s'asseoir autour de la table avec l'ECAM pour aller attendre et critiquer l'ECAM, je pense que la personne serait un peu à côté de la plante. C'est ensemble que nous construisons la crédibilité, la transparence, et pour qu'au soir d'un scrutin, les résultats soient acceptés par toutes les parties prenantes.
Honorable et pas membre du Conseil électoral Elections Cameroun, l'ECAM est-il prêt pour l'élection présidentielle de 2026? Toutes les conditions sont-elles réunies sur le plan de la logistique, des ressources humaines et de la préparation des acteurs sur le terrain?
Là, je voudrais faire simple et dire que l'ECAM est prêt sur tous les plans organisationnels et gestionnels de processus électoral. Donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire du côté de l'ECAM.
Certains se font du souci pour ce qui est des régions du nord-ouest, du sud-ouest et même de l'extrême nord.
Il n'y a pas d'inquiétude à se faire puisque généralement...
Du climat socio-sécuritaire.
Ce n'est pas la première fois que les élections se passent dans ces zones depuis qu'elles sont en crise. Et je pense que le mécanisme, tout est mis en œuvre par l'État pour que des élections paisibles se déroulent bien dans ces zones en crise.
Ce sera la dernière plateforme avant les scrutins, il y en aura une autre.
En 2025, certainement, nous aurons une plateforme. Pendant l'année électorale, il y a le code de bonne conduite qui devrait être signé par tous les acteurs du processus électoral pour dire pendant cette période, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas d'injure. Tout le monde va respecter la procédure, les délais, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Pas de souci à se faire pour les prochains scrutins.
Pas de souci.
Votre mot de la fin?
Je voudrais une fois de plus inviter tous les acteurs du processus électoral à continuer à cheminer avec l'ECAM parce qu'il s'agit de bâtir la démocratie. C'est l'affaire de tous, ce n'est pas seulement l'affaire de l'ECAM. L'ECAM, certes, selon la loi, est un acteur majeur parce qu'il organise et gère les élections, mais les autres acteurs du processus électoral, s'ils ne sont pas là, s'ils ne sont pas présents, en quelque sorte, il n'y a pas d'élection. Donc nous devons tous nous mettre autour de la table pour dialoguer, d'où l'intérêt de la plateforme de concertation permanente. C'est un cadre de réflexion pour améliorer, perfectionner ce qui est déjà fait par l'ECAM.
Honorable Époque Clémence Fleur, membre du Conseil électoral d'Elections Cameroun, merci d'avoir fait le déplacement de la CRTV.
C'est moi qui vous remercie.
Dimanche midi, place au regard d'experts.
La plateforme de concertation entre Elections Cameroun et l'ECAM et les autres acteurs du processus électoral suffit-elle à augmenter le capital confiance entre les deux parties? Question en débat ce dimanche dans Regard Croisé. Bonjour Sardi Lawane, sur le plateau, aux deux invités.
Bonjour Florence. Ce dimanche, Pierre Balégun-Côte, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, et le professeur Joseph Kank, juriste et homme politique, sont nos invités. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Nous prenons pour prétexte la tenue à Yaoundé cette semaine de la deuxième édition de la plateforme nationale de concertation permanente entre Elections Cameroun et les autres acteurs du processus électoral. Comment avez-vous accueilli la tenue de ce conclave, professeur Kanke?
J'ai accueilli ça avec beaucoup de satisfaction. Vous savez, le dialogue entre les acteurs de la chaîne politique de notre pays et les camps, c'est quelque chose qui doit être bien parce qu'on ne peut dialoguer que quand on est deux ou plusieurs. Et là, il s'agissait d'un dialogue entre l'ECAM avec plusieurs acteurs de cette chaîne politique et je ne peux être que satisfait compte tenu, vous voyez, des critiques qui étaient déjà avancées par rapport à la publication des listes avec des erreurs matérielles. Et vous vous souvenez, mon cher Sardi, j'étais déjà intervenu pour vous dire que des erreurs, il y en a toujours, mais dans le cas de l'ECAM, c'était des erreurs qu'on devait corriger parce qu'il y a des procédures qui permettent aux partis politiques qui inscrivent leurs militants ou encore des citoyens camerounais sur les listes électorales, ces procédures leur permettent, voyez, de remettre le travail de l'ECAM en question et de permettre des corrections. Donc, quand il y a un dialogue comme celui-là, il s'agit d'un dialogue, je dirais, à caractère didactique. Et ça permet de résoudre, n'est-ce pas, toutes les polémiques qu'il y avait autour de ces inscriptions sur les listes électorales. Donc, c'est avec beaucoup de satisfaction que j'ai accueilli une telle rencontre entre l'ECAM et la chaîne des acteurs politiques nationaux.
Pierre Balégun-Côte, pour un parti politique, participer à ce genre de conclave est plutôt enrichissant, non?
Oui, ben c'est enrichissant, mais il faut souligner quand même que l'ECAM a une grande responsabilité dans la construction de l'état de droit au Cameroun. Et que je crois, en nous invitant pour échanger, ils savent que c'est pour construire la démocratie dans notre pays. Et notre parti est satisfait d'avoir assisté à cette réunion. Mais déjà, il faut dire que c'est les grands gabarits qui sont à l'ECAM, les docteurs en droit qui sont le président et le directeur général, et puis les autres les grands professeurs qui sont membres du conseil électoral. Mais nous vivons dans le même Cameroun. Ils connaissent exactement les problèmes qui se passent au Cameroun. Et nous sommes seulement partis là pour confirmer et pour les rappeler pour que la nation évolue en paix. Il faut qu'on se comprenne sur le minimum qui constitue la démocratie dans notre pays.
Et justement, aujourd'hui, il y a eu toujours cette méfiance des partis politiques de l'opposition vis-à-vis de l'ECAM. Vous comprenez ça?
Pourquoi cette méfiance? C'est qu'en réalité, tout ce qu'on leur demande, pour le moment que le code électoral n'est pas changé, qu'ils appliquent au moins à la lettre ce qui existe. C'est tout ce qu'on veut. Et je crois que c'était nos échanges. Ils promettent d'appliquer le droit au Cameroun. Parce que, je dis encore une fois de plus, nous voulons construire un état de droit. Et si l'ECAM, qui est la dernière chaîne de la démocratie, c'est-à-dire qui, en réalité, doit être là pour promouvoir l'alternance, si l'ECAM se comporte très bien, et vu notre démocratie va passer la ligne rouge.
Professeur Kanke, vous êtes juriste. Balégun-Côte dit que l'ECAM est un maillon essentiel du processus démocratique au Cameroun, mais qu'il y a des tests qu'il faut appliquer.
Oui, il y a des tests qu'il faut appliquer, et notamment la loi de 2012 portant code électoral. Et dans cette loi, moi j'ai toujours cité l'article 5, n'est-ce pas, qui parle de l'indépendance et l'intégrité des membres du conseil électoral dans ce pays. Et c'est pour ça que je demandais aux différentes formations politiques de permettre à ces gens de travailler, n'est-ce pas, en toute sérénité. Parce que si, dès le départ, les critiques sont acerbes et les empêchent d'être eux-mêmes, ces gens qui sont intègres, il a même parlé, n'est-ce pas, des gens qui ont des doctorats en droit, c'est vrai. Éric Essoussé, docteur en droit, c'est quelqu'un qui écrit des ouvrages. Le président du conseil électoral aussi est docteur en droit. En fait, la plupart des membres sont juristes et doivent appliquer les textes. Supposons que pour appliquer les textes, on doit le faire en toute sérénité, on ne doit pas le faire dans le désordre. Et pour cela, le travail que ces éminentes personnalités abattent au quotidien et qui va voir le jour sur le plan national d'ici la fin de ce mois de décembre qui commence ce matin, je pense très bien que tout le monde sera satisfait. C'est la raison pour laquelle je dis j'ai accueilli avec satisfaction cette rencontre entre l'ECAM et les différents acteurs politiques. par rapport, n'est-ce pas, à ces inscriptions sur les listes électorales. Mais il faut aussi qu'ils sachent qu'à partir de janvier 2025, n'est-ce pas, les listes vont à nouveau s'ouvrir. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu la possibilité de s'inscrire cette année et qui remplissent les conditions d'inscription peuvent toujours le faire, n'est-ce pas, à partir de janvier, en étant entendu que d'ici peut-être la première quinzaine du mois de juin, il y aura un décret du chef de l'État convoquant le corps électoral pour l'élection à la présidence de la République. Donc moi, je crois que les juristes, c'est bien, n'est-ce pas, que ce soit des juristes, n'est-ce pas, qui fassent ce travail, parce qu'ils ont un travail d'interprétation et d'application de la loi. Ils ne sont pas seulement là pour appliquer la loi, ils sont aussi là pour les interpréter et les appliquer comme cela se doit. Et ils le font jusqu'à maintenant sans heurts. Même s'il y a quelques petits problèmes matériels qui peuvent s'observer ici et là, n'est-ce pas, ils parviennent toujours à les corriger. Et je suis sûr que d'ici la fin de ce mois, quand on va publier, n'est-ce pas, la liste pour les inscriptions sur les listes électorales de toutes les Camerounais, de tous les Camerounais qui remplissaient les conditions d'inscription sur ces listes, tout le monde sera d'accord. Et c'est tant mieux cette démocratie qui se construit sous nos yeux. Ils ont même dit, je crois, Dr Balégué, qu'on a parlé de la construction de l'état des droits. Oui, et les camps participent de cette construction, l'état de droit dans notre pays. L'état de droit, c'est celui qui respecte la loi, vous voyez, et l'État est, sur ce plan-là, irréprochable. Donc, il faut qu'on laisse ces gars travailler, n'est-ce pas, en toute sérénité, et nous verrons tous que les résultats seront satisfaisants, n'est-ce pas, de part et d'autre.
Est-ce que finalement, à votre avis, il est quand même victime d'un délit de faciès?
Ils le disent souvent, mais il faut qu'ils corrigent rapidement cela, parce que même si au départ, n'est-ce pas, il y a des gens qu'on a pris et qui appartenaient, n'est-ce pas, à une formation politique précise, et je voudrais parler du RDPC, ils ne sont plus aujourd'hui membres de cette formation politique, parce que l'une des conditions pour rester membre de l'ECAM, c'est de démissionner, n'est-ce pas, de la formation politique à laquelle vous appartenez au départ. Et c'est ce qu'ont fait tous les membres de l'Action Cameroun, et ils travaillent aujourd'hui, n'est-ce pas, en stricte indépendance, en stricte intégrité, et je crois que il faut tout simplement leur reconnaître cette compétence-là, parce que, comme je l'ai dit, ils ont vu comment la rencontre, n'est-ce pas, a été dirigée demain par les membres de l'ECAM, n'est-ce pas, qui ont pris en compte leurs revendications et qui aujourd'hui, n'est-ce pas, sont en train de les corriger. Et d'ici à là, je crois que tout le monde sera content. Donc le délit de faciès, il faut que ce délit cesse d'être encore montré du doigt. Parce que comme lui-même il a dit, ce sont des Camerounais qui travaillent pour leur propre pays et il ne faut pas que dans la construction de notre jeune démocratie, dans la construction de notre état de droit, vous voyez qu'il y ait trop de reproches à faire. Et je crois qu'ils font en sorte que ces reproches s'amoindrissent et parfois n'existe pas.
Pierre Balégué-Côte, est-ce que l'UPC fait confiance à ILECAM?
Bon, maintenant, le président Kam vient de dire tout à l'heure que si les gens étaient d'un autre parti politique, une fois à ILECAM, ils ne sont plus membres de ce parti politique et il a bien précisé qu'ils doivent démissionner de ce parti politique. Alors, la confiance de ILECAM provient du fait qu'ils doivent être autonomes. Et ils nous ont répété à plusieurs reprises qu'ils sont autonomes, que ILECAM ne dépend pas de Minat, ne dépend pas de la présidence et c'est une institution autonome. Et c'est pour cela qu'il faudrait qu'ils assument leur autonomie et nous allons leur faire confiance à partir du moment où vont assumer leur autonomie.
Donc pour l'instant, vous ne leur faites pas confiance?
Non, on fait confiance à ILECAM. Je vous ai dit tout à l'heure que les membres de ILECAM sont situés sur le plan intellectuel. Ils sont même sur le plan, disons, de l'expérience professionnelle, même du management. C'est des gros gabarits qu'ils ont pris là-bas au conseil électoral et avec les deux dirigeants. Mais en réalité, nous continuons à dire que en s'améliorant, il faut qu'ils s'améliorent davantage. Il faut qu'ils s'améliorent davantage et qu'ils s'écartent de plus en plus de partis au pouvoir.
Dans l'exercice de ses missions au quotidien, ILECAM a besoin autant de la société civile que des partis politiques. Qu'est-ce que l'UPC au quotidien fait pour que le processus électoral avance?
Ah bon, mais ça c'est très important, c'est très bien de poser cette question. D'abord pour la procédure d'inscription sur les listes électorales. Nous sommes toujours là en train d'accompagner ILECAM pour qu'on ait le maximum d'inscrits sur les listes électorales. La première chose. La deuxième chose, c'est qu'on indique de temps en temps par écrit les soucis que nous avons à ILECAM. Et il y a parfois, ils nous font l'honneur de nous recevoir là-bas et on discute sur certains points. Et là, je dis encore une fois de plus, c'est à leur avantage parce que lorsque vous partez à ILECAM, on vous reçoit dans de très bonnes conditions et vous discutez aussi dans de très bonnes conditions. Et je crois que ça continue à faire que entre nous, il y a le dialogue. Mais encore une fois, ce dialogue doit avoir fermement des fruits. On ne veut pas que ça soit à 60%. On veut même qu'on aille jusqu'à 90-100% d'application des règles qui observent la constitution de l'état de droit.
Professeur Kanke, parce qu'il est essentiel que l'entente entre ELECAM et les autres acteurs du processus soit totale. Autrement dit, s'il n'y a pas d'entente totale, s'il y a des incompréhensions, forcément, le peuple pourrait avoir des a priori.
Quand lui parle de 90% d'application de la loi, moi je dis on doit passer des 90% à 100% d'application de la loi. Cette loi existe, le code électoral de 2012, nous tous nous la connaissons dans toutes ses dispositions. Elles doivent être appliquées, surtout les dispositions concernant les inscriptions sur les listes électorales. Et dans le respect des différentes parties, voyez, en jeu. Et là, le dialogue permet de s'entendre. Je vous ai dit que le dialogue, n'est-ce pas, c'est un échange ou un entretien entre un ou plusieurs personnes, entre une ou plusieurs personnes. Et ce dialogue s'est déroulé entre les CAN, n'est-ce pas, et les différentes formations politiques qui prennent part au processus électoral dans notre pays. Et je crois que le dialogue est instauré, n'est-ce pas, dans le but de parvenir à une entente. Et je crois que, comme lui-même il dit, ils font confiance à ces acteurs, n'est-ce pas, de l'ECAM, et je pense que cette confiance est partagée, même avec le RDPC et toutes les autres formations politiques, dont l'entente...
Ce n'est pas forcément le cas avec d'autres acteurs politiques.
Oui,
qui estime que ELECAM n'est pas indépendant et qu'il faudrait revoir les textes.
Ils doivent... Non, quand on va purer les électorats, ils vont se rendre compte que ELECAM est indépendant. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours sans la voir tuer. Il faut d'abord que les listes soient publiées. Et les listes vont l'être d'ici la fin de cette année, c'est-à-dire la fin de ce mois. Et je crois que tous ces acteurs qui ont pris part à ce dialogue, et même ceux, n'est-ce pas, qui ne l'ont pas fait, ils vont arriver à la conclusion que l'entente est là et que les listes sont publiées telles qu'elles ont été élaborées et telles que les gens se sont... C'est-à-dire en respectant, n'est-ce pas, toutes celles et tous ceux qui ont pris part à l'inscription sur les listes électorales. Donc moi, je crois que l'entente est le but recherché. Et cette entente est déjà en train, voyez, d'avoir lieu dans ce processus. Parce qu'il n'y a pas eu trop d'éclat de voix au cours de ce dialogue. Et je suis sûr qu'avec l'évolution du temps, il n'y aura même pas d'éclat de voix. Il y aura plutôt des cris de satisfaction de part et d'autre. Et moi, je crois que c'est vers là qu'on est en train d'aller. Le temps que cela prendra est très, très court. Parce que d'ici à là, les listes vont être publiées. Et d'ici janvier 2025, le processus va à nouveau commencer et va s'arrêter au moment où on va convoquer le corps électoral pour l'élection à la présidence de la République.
Pierre Balé-Guelkot, dans les rangs de l'UPC, vous êtes conscient de tout ce calendrier que le professeur Kanke vient de dérouler. J'imagine qu'il y a une sensibilisation auprès des militants pour que les militants fassent la part des choses entre les vraies informations et les fake news qui pourraient circuler autour de prétendues manipulations des listes électorales par ELECAM.
En réalité, l'union des populations du Cameroun n'est pas là pour semer les désordres dans la tête des Camerounais. Au contraire, on est là pour qu'on construise la République. Et quand on construit la République dans la paix et dans la sérénité. Si c'est les fake news n'amènent pas la paix, n'amènent pas la sérénité. Donc on s'écarte de ça vraiment, en toute responsabilité. Et de manière définitive, c'est comme ça qu'on a été formé pour respecter la République. Toutefois, il faudrait que les gens qu'on envoie, ils vont avec les camps sur le terrain pour inscrire les gens sur les listes électorales. Mais je continue à dire que l'œuvre humaine n'étant pas parfaite, et connaissant l'état de notre pays où à un certain moment, il y a l'administration peut entrer en jeu lors des inscriptions et faire des petits capouillages qui n'est pas de la faute de l'ECAM. Bon, on se dit que toutes ces choses, quand il y a des petits capouillages, qu'ils corrigent ça rapidement. Parce que ce que le Cameroun a besoin, c'est d'avoir la confiance des Camerounais. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais je dis que s'il y a des choses qu'on leur dit, il faut humblement les corriger. Bon, mais ce qui est faux, est faux. On ne peut pas faire que ce qui est faux devienne la vérité. Bon, comme il y a les réseaux sociaux là maintenant, les gens écrivent de n'importe quoi. Mais encore une fois, je vous précise et je vous dis que le Cameroun doit assumer sa position. Mais regardez par exemple, peut-être que je vais un peu loin par rapport à la question. Lorsqu'on dit que c'est le rapport de l'ECAM lors des élections qui fait foi, vous voyez la responsabilité que l'ECAM porte. Donc on veut que l'ECAM soit comme une commission électorale indépendante. Et nous pensons qu'on va vers là.
Professeur Kank, c'est généralement cet aspect qui rend un peu l'air vicié lorsque vient la période des consultations électorales, des a priori qui feraient que ELECAM soit considéré comme allié de l'État. Du moins, c'est un peu la thématique qui est reprise par tous ceux qui sont de l'autre côté. Il est important aujourd'hui que les uns et les autres comprennent que la sérénité doit régner.
J'ai toujours demandé que les gens respectent les membres de l'ECAM, qu'on n'a pas recruté au hasard. Ces gens ont rempli les conditions de formation, les conditions de compétences. Et c'est la raison pour laquelle on les a nommés pour travailler à l'ECAM. Et même sur le terrain, au niveau des démembrements territoriaux de l'ECAM. Moi, j'ai des étudiants, je suis enseignant d'université, j'ai des étudiants qui ont des masters, même des doctorats, qui travaillent, voyez, dans des démembrements départementaux de l'ECAM, des démembrements d'arrondissements communaux de l'ECAM. Donc, moi, je crois qu'il faut leur faire confiance. Et ces a priori doivent cesser, je dis ça. Il faut permettre aux gens de travailler en toute indépendance et en toute sérénité. Ils en ont besoin. Et c'est des gens indépendants. Ils le savent. Je crois qu'ils font un effort pour ne pas heurter qui que ce soit. Et cet effort est visible sur le terrain. Et c'est dans le prolongement de cet effort qu'ils ont créé cette plateforme de rencontre entre les leaders des partis politiques et les CAM. C'est pour mettre sur la table les efforts qu'ils sont en train de faire pour que tout le monde soit satisfait. Et moi, je crois qu'ils ont compris cela. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas eu trop d'éclat de voix au cours de cette rencontre et les CAM et les acteurs politiques. Et je crois que ça va continuer. Je dis bien que d'ici à là, ce sera la satisfaction dans tous les camps. C'est pour ça qu'il faut laisser ELECAM travailler entre eux et laisser de côté les a priori. Les a priori, c'est l'arme des faibles. Vous voyez, quand on ne peut pas aller vers ELECAM, ben on commence à raconter n'importe quoi. Et j'exhorte ces différentes formations politiques à amener justement les leurs, à retirer leurs cartes d'électeurs. Parce que seules ces cartes ont aujourd'hui remplacé la Kalachnikov sur le terrain politique. Parce que si vous n'avez pas votre carte d'électeur, vous ne pourrez pas voter dans un bureau de vote. Il faudra présenter votre carte d'électeur et aller voter. Donc il faut s'inscrire, mais il faut surtout retirer les cartes d'électeur. Donc il y a deux mouvements. Le premier mouvement consiste à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Le deuxième mouvement consiste à aller massivement, le même nombre si vous voulez, retirer ces cartes d'électeur.
D'accord.
Et le moment venu, je crois que ces a priori vont disparaître, c'est-à-dire qu'ils vont mourir de leur propre poison. C'est comme ça que je peux parler.
Alors, Pierre Balegencourt, deux mouvements, aller s'inscrire massivement sur les listes électorales, et deuxième mouvement, aller retirer massivement les cartes d'électeurs afin d'avoir accès au bureau de vote le moment venu. Ça, c'est également le message que vous transmettez à vos militants et sympathisants.
Exactement, c'est ce qu'on fait. Mais moi, je dis encore une fois, on est dans la construction de la République. Si l'ECAM nous a appelés, c'est parce qu'ils ont senti qu'il y a des choses qu'il faut recueillir pour améliorer le système. Sinon, s'ils savaient que tout était amélioré, ils n'allaient pas appeler les gens. Mais ils veulent faire l'amélioration. Maintenant, pour l'inscription sur les listes électorales, il faut davantage donner les moyens à l'ECAM pour qu'ils s'approchent des électeurs. L'état des routes est un peu difficile ces derniers temps. D'ici 7 mois, je ne crois pas que tout ça, ça va se résoudre. Donc, il doit faire un effort d'aller davantage vers les gens qui veulent s'inscrire. Parce que notre message, et le message des partis politiques responsables, c'est que inscrivez-vous dans les listes électorales. Et moi, je ne peux pas vous cacher, c'est que avec les petits moyens personnels, on finance même des déplacements des militants pour les inscriptions dans les listes électorales. Je dis avec les moyens personnels. Et on fait ça, on demande à tous les responsables de partis de le faire. Bon, donc, s'il y a vraiment la volonté de faire la démocratie, il voudrait que l'État, en cette année d'élection, présidentielle d'ailleurs, l'année qui vient, les autres élections, il faut qu'on mette les moyens pour que les gens puissent s'inscrire dans leur domicile. Sinon, il y a des endroits maintenant que, pour quelques kilomètres, vous payez 3 000 francs et 4 000 francs. Et 4 000 francs, c'est pas facile à voir. Et j'ai dit ça parce que j'ai d'expérience, j'envoie l'argent pour qu'on aille s'inscrire dans les listes électorales. Et ça, c'est des choses pratiques qu'il faut qu'on parle. On parle de ça.
D'accord. Pierre Baléguin-Côte, secrétaire général de l'UPC, merci d'avoir participé à Regard Croisé ce dimanche.
Merci beaucoup.
Professeur Joseph Canquin, merci à vous également.
Je vous remercie infiniment, mon cher Sardi. Je remercie Baléguin-Côte de s'être prêté à cet exercice. Je suis reconnaissant. Il travaille beaucoup et je crois qu'ensemble, on va s'entendre. Ensemble, on va continuer avec ce processus et trouver le moment venu les voies et moyens pour davantage construire notre démocratie, notre état de droit.
Merci à vous deux, messieurs, d'avoir participé donc à Regard Croisé. On va remettre l'antenne à Florence Mequeux pour la suite de dimanche midi. Bon dimanche à tous.
Merci Sardi Lawan. Bon dimanche également à nos deux invités. Mesdames, Messieurs, il est 13h à Yaoundé, c'est l'heure du JDM. Le JDM est une présentation de Sylvain Yangman. Bonjour Sylvain.
Bonjour Florence Mequeux. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au JDM de ce dimanche 1er décembre 2024 sur la CRTV, les titres. Les représentants du peuple ont reçu cette matinée le projet de loi de finances pour 2025. Le projet de budget soumis à l'appréciation des députés s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 7 317,7 milliards de francs CFA. Économie de ce projet de loi dans le JDM. Ce 1er décembre est journée mondiale de lutte contre le sida. À cette occasion, la première dame du Cameroun, Mme Chantal Biya, exhorte les acteurs à poursuivre le combat citoyen. En sport, course cycliste nationale VTT Chantal Biya, Joseph Lé, le français Raoul Vanoussem et Hervé Mba sont les vainqueurs des catégories prestige Master 1 et 2. Cela au terme des étapes de 12 km, 36 et 24 km. La compétition s'achève ce dimanche à Bagofit à l'Est. Madame, Monsieur, bienvenue aux nouvelles. Troisième session ordinaire de l'année 2024. Le projet de loi de finances pour le prochain exercice est déjà sur la table des députés. Ce texte a été soumis à leur appréciation cette fin de matinée au cours d'une séance plénière présidée par le premier vice-président de la Chambre, l'honorable Hilarion Eton. Le projet de budget pour l'exercice 2025 s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 7 317,7 milliards de francs CFA. L'économie de ce projet de loi avec Pauline Deauville-Mendoza.
Un seul chiffre à retenir ce dimanche 1er décembre 2024, 7 317,7 milliards de francs CFA. C'est ce chiffre qui servira de repère au cours de l'année 2025. Et déjà, il va concentrer le débat au Parlement parce que c'est lui qui accompagnera l'orientation politique de l'État du Cameroun l'année prochaine. Le projet de loi de finances 2025 connaît une augmentation de 39,6 milliards de francs CFA en valeur absolue et 0,5% en valeur relative. Le projet de budget pour l'année prochaine a été préparé dans un contexte marqué par la résilience de l'activité économique mondiale, dont le taux de croissance devrait passer de 3,3% en 2023 à 3,2% en 2025. Pour ce qui est des autres hypothèses macroéconomiques, il y a lieu de relever que le taux de croissance de l'économie camerounaise devrait passer de 3,8% en 2024 à 4,1% en 2025, une heureuse perspective qui est déterminée par le secteur non pétrolier. Celui-ci affiche une croissance de 4,3% en 2025. En revanche,
Dans le secteur pétrolier, l'activité va continuer à se contracter avec une croissance projetée à moins 1% en 2025. Ceci du fait de la baisse de la production pétrolière. Pour ce qui est de l'inflation, elle devrait poursuivre sa tendance baissière, bien que restant encore au-dessus du seuil de la convergence de la CEMAC qui est de 3%. En 2025, l'inflation devrait se situer à 4% après 5% estimé en 2024. S'agissant de la structure du budget en 2025, l'on note que les recettes internes et les dons sont projetés à un peu plus de 5 000 milliards et demi, en augmentation de 315,1 milliards de francs CFA. En ce qui concerne les conditions de son équilibre, le budget du prochain exercice affiche un solde global déficitaire de 107,8 milliards. Afin de combler ce besoin de financement, le gouvernement va recourir aux instruments financiers habituels, les tirages extérieurs sur les pré-projets, les émissions des titres publics, le financement bancaire, entre autres. La principale innovation du projet de loi de finances 2025 porte sur la poursuite du dégrossissement des chapitres communs. Une autre séance plénière est prévue cet après-midi à l'Assemblée nationale. Elle sera consacrée à la présentation du programme économique, financier, social et culturel du Cameroun par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diongouté. Un autre grand moment dans la vie de la République.
Restons à l'Assemblée nationale pour signaler que le président de l'Auguste Chambre a reçu en audience le directeur général adjoint de Beijing, Urban Construction Group, l'entreprise chinoise ayant construit le nouveau palais de l'Assemblée nationale. Zhang Yongguan et ses collaborateurs sont allés faire leurs adieux au très honorable Kava Yege Djibril, qui leur a dit une fois de plus merci. Vous écoutez le JDM sur la CRTV, les 13h passées de 6 minutes dans ce studio. De concert avec la communauté internationale, le Cameroun commémore ce 1er décembre 2024 la journée mondiale de lutte contre le sida. Difficile d'évoquer la lutte contre le sida au Cameroun sans mentionner l'apport inestimable de la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya. En ce 1er décembre, elle a diffusé un bref message exhortant les acteurs à poursuivre ce combat citoyen. Joseph Clément Ongba.
Chaque action compte, ma vision, une Afrique sans sida. Ainsi s'exprime la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, dans un message circonstancié en ce 1er décembre 2024, jour du souvenir de la lutte contre le sida. La communauté internationale a choisi pour thème des paroles ayant valeur de programme. Prenons le bon chemin, ma santé, mon droit. Cette 37e journée mondiale de lutte contre le sida est aussi l'occasion d'apprécier positivement le long et difficile chemin que Mme Chantal Biya mène contre la terrible pandémie depuis plus de deux décennies. Difficile de regarder dans ce rétroviseur sans une fixation sur les 15 et 16 novembre 2002 à Yaoundé. À l'initiative de la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, l'ONG Synergies africaines contre le sida et les souffrances est portée sur les fonts baptismaux. Une mobilisation citoyenne qui réunit autour des premières dames d'Afrique une brochette variée de sommités scientifiques internationales, dont Luc Montagnier de France. « Luttons contre le sida et non autour du sida », avait martelé Mme Chantal Biya du haut de la tribune du Palais des Congrès. Depuis lors, l'on a misé sur la prévention, la transmission, mère-enfant du VIH, pour en minimiser les effets. La Fondation Chantal Biya est ici l'un des sites pilotes. Des ateliers sont organisés au Cameroun et en Afrique par Synergies africaines. La sensibilisation est aussi un outil fiable de prévention. Elle cible les jeunes. Dans ce domaine, la campagne Vacances sans sida apparaît comme un outil fiable de prévention par les jeunes et pour les jeunes. Depuis sa mise sur orbite en 2003, près de 10 millions de jeunes ont été sensibilisés, 1 million formés à la pré-éducation. Des milliers de préservatifs masculins et féminins distribués, des milliers de tests de dépistage réalisés. Puis il y a les causeries éducatives organisées par le Cercle des Amis du Cameroun ou encore Synergies africaines. La recherche constitue également un levier essentiel de la prévention. En inaugurant le Centre international de référence Chantal Biya, Mme Chantal Biya misait sur ce précieux pôle comme partenaire dans l'amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec le VIH-SIDA. Au CIRCB, la lutte contre les résistances des patients aux ARV est en ligne de mire. Et comme le soulignait Michel Sidibé, à l'époque directeur exécutif de l'ONU-SIDA, le 1er juin 2015 à Yaoundé, en remettant les attributs d'ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA à Mme Chantal Biya, Synergies africaines, avec le leadership de Mme Chantal Biya, a transformé le visage de la lutte contre le sida en Afrique, créant la voix des sans-voix. C'est tout dire.
Le tout premier salon interprofessionnel de l'aquaculture du Cameroun se tient dès demain 2 décembre et c'est jusqu'au 7 décembre 2024 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé sous le thème l'import substitution, l'apport de la filière aquacole. Ngondo 2024, dans l'attente du message des ancêtres Sawa, encore dans les moules du décryptage. La grand-messe annuelle de l'eau du peuple Sawa se tient en ce moment sur les berges du Vouri à Douala et nous avons justement à Douala sur place notre reporter Chris Patricia Lulouga. Bonjour. Bonjour Chris Patricia.
Bon après-midi Sylvain Yangman, communion parfaite sur les berges du Vouri entre les ancêtres Sawa, le peuple Sawa, les populations de la capitale économique et d'ailleurs venues célébrer la grand-messe de l'eau. Cette communion fait écho au thème solidarité retenu cette année pour le Ngondo. Le message des ancêtres Sawa à peine sorti des profondeurs du Vouri, encore en cours de décryptage dans la case sacrée, loin des regards des population. La lutte traditionnelle poids léger vient d'être remportée par Idrissou Ebouele du canton Akwa. Autre moment fort, la course des pirogues qui se déroule en ce moment avec les encouragements des populations. L'innovation cette année, c'est le tir à la corde qui se prépare également non loin de notre position d'observation. En direct des berges du Vouri, Chris Patricia Lulouga pour le JDM.
Merci Chris Patricia. La troisième édition de la pépinière doctorale en sciences économiques et de gestion de la CEMAC s'ouvre officiellement après-demain à l'Institut français à Yaoundé, placé sous le thème Enjeux et défis de l'économie sociale et solidaire en Afrique centrale. C'est sous le haut patronage du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Jacques Famdongo. Et puis en sport, cyclisme, course nationale VTT Chantal Biya, la compétition s'est refermée ce dimanche avec les catégories prestige Master 1 et Master 2. Joseph Lé, le français Nicolas Vanouxem et Raoul Hervéba sont les vainqueurs de ces étapes longues de 12, 36 et 24 kilomètres. Au total, 5 vainqueurs sont sur le podium de cette deuxième édition. Bilan de la compétition avec Ariel Olivia Zoua depuis Bagofit.
Vous voyez comment son doigt montre le champion.
Il l'a dit, il l'a tenu. Le vainqueur de la catégorie prestige, le ministre Joseph Lé, promoteur de l'événement.
Le ministre Momo m'a fait perdre 30 minutes sur le trajet parce que je l'attendais. Et puis par dépit, j'ai dit bon, allez, il n'a qu'à rester, qu'il se débrouille.
Tout comme lui, le français Nicolas Vanoussem.
C'est une belle course physique.
Et Raoul Hervéba.
Mais c'est difficile parce qu'il y a des vibrations, des obstacles à esquiver et tout.
Sont les vainqueurs des catégories prestige, Master 1 et Master 2. Ces vainqueurs du jour ont fait preuve d'endurance tout en surmontant les obstacles sur des distances de 12, 36 et 24 kilomètres. Ils retrouvent ainsi sur la marche du podium Mariole Feudjo chez les dames et Clovis Camzon Abosolo en élite. Ce sont donc les 5 vainqueurs de cette deuxième édition de la course nationale VTT Chantal Biya. En marge de cette course qui a démarré vendredi dernier, d'autres activités ont meublé le quotidien des populations, notamment la remise de 200 dons de la Fondation Chantal Biya à la prison centrale d'Abomban, des causeries éducatives, une foire exposition, les soins de santé et la soirée culturelle. La remise des trophées met la clé sous le paillasson à la tribune Jean Simbon de Bakofit, Ariel Olivia Zoua, Olivier Ndimonier pour le 13h.
C'est la fin du JDM. Dimanche midi se poursuit sous la conduite de Florence Meke. Madame, monsieur, bon dimanche et bonne semaine à venir.
Et le JDM était une présentation de Sylvain Yangman.
Dimanche midi. Dimanche midi.
Ma
na wani te ya me sanja e na fula meja o ya me bagona denkwe na o masako me pomega manga mapula be sanja nyewa na wani te ya me sanja e na fula meja o ya me bagona denkwe.
Conversation avec mon voisin, capture des faits de société sous forme d'éphémérides.
Voici venu le temps de converser avec notre voisin ce dimanche. On parle beaucoup de violences ces derniers temps, avec un accent particulier sur les violences faites aux femmes. Nos deux voisins y vont de leurs observations et dénonciations des violences en élargissant le spectre. Il parle aussi de la médiocrité que certains veulent entretenir en se contentant du service minimum, alors qu'ils sont en droit d'exiger plus ou de proposer plus. Voici Conversation avec mon voisin, une chronique de Valérie Dicos Oumarou.
Ces jours-ci, à la faveur d'une campagne d'activisme contre les violences faites aux femmes, on parle beaucoup de violence. Je nous propose de nous arrêter un instant sur la signification de ce mot. La violence est l'utilisation intentionnelle de la force physique ou psychique, l'utilisation abusive du pouvoir, l'usage de menaces contre les autres, notamment les plus faibles, les plus démunis. Cela se manifeste par des comportements de domination ou d'asservissement, employant tous les moyens physiques ou psychologiques à la portée du bourreau. Il se trouve que les femmes en souffrent le plus, parce que naturellement, physiquement plus faibles que les hommes. Les femmes subissent au quotidien toutes sortes d'abus, infligés par des hommes qui tirent avantage d'un statut de mâle dominant. Malgré toutes les campagnes, tous les messages de sensibilisation et parfois malgré la répression, il se trouve encore des hommes qui ne savent pas que la force est mauvaise conseillère devant plus faible que soi. Mon voisin me parle justement lundi de ces violences faites aux femmes, violences qui vont parfois jusqu'à la mort, au point où on a inventé un mot pour spécifiquement désigner le meurtre d'une femme simplement parce qu'elle est une femme. Le féminicide. Le meurtre, c'est l'extrême. Mais avant, il y a toutes les autres violences, psychologiques et verbales, morales et sexuelles, dont les effets ne sont pas souvent visibles, mais dont les dégâts sont incommensurables. Dans les milieux scolaires et professionnels, il y a le harcèlement sexuel et son énorme manteau de silence. À la vérité, mon cher voisin, les femmes sont fortes, beaucoup plus fortes que leurs bourreaux qui ne seraient pas capables d'endurer ce qu'elles supportent. Être une femme peut parfois ressembler à un exploit. Mardi, mon voisin me parle encore de violence. Il y a bien sûr les violences faites aux femmes, mais il y a aussi toutes les autres violences. Nos interactions dans la société sont d'une violence que nous ne remarquons même plus. Allez dans une administration et demandez un renseignement. Si on vous répond, parce que parfois on ne vous répond même pas. Si on vous répond, c'est avec une agressivité incompréhensible. Dans la rue, dans les marchés, dans les hôpitaux, sur les réseaux sociaux, la violence verbale atteint des sommets. Après la lutte contre les violences faites aux femmes, on doit lutter contre les violences, quelles qu'elles soient. Mercredi, le groupement patronal du Cameroun et Aéroports du Cameroun s'affrontent. Les patrons dénoncent des aéroports délabrés. En réponse, les aéroports disent que la remarque est excessive. Et mon voisin est étonné. Le constat de délabrement, excessif ou pas, est réel. Cette tendance que nous avons de dire que les choses ne sont pas aussi graves que ça va nous maintenir dans la médiocrité. Visez l'excellence, demandez l'excellence, ne faites pas de vous un citoyen irresponsable. jeudi. Mon voisin est effrayé. Il y a quelques années, me dit-il, acheter un terrain était une activité presque banale. Mais aujourd'hui, au Cameroun, vous avez plus de chances de finir au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal que d'avoir vraiment votre terrain. Les opérateurs de la filière, hors et dans l'administration, sont aussi dangereux que des poseurs de bombes. Effectivement, mon cher voisin, dans les affaires foncières, nous sommes un terrain miné au sens propre, plus qu'au sens figuré. Vendredi, avec mon voisin, nous lisons cette information qui nous apprend que la société Isacam est adjudicataire du marché de la collecte, du transport des ordures ménagères, du balayage, du nettoyage des rues, des places publiques et des marchés de la ville de Yaoundé pour les 5 prochaines années. Mon voisin me fait juste remarquer que cette entreprise est actuellement en activité, ainsi qu'une autre d'ailleurs. Moi, je choisis d'être optimiste, en comptant sur quoi, je vous avoue que je ne sais pas. Votre semaine a sans doute été meilleure que la nôtre. À dimanche prochain.
C'était la chronique de Valérie Dikosumaru, conversation avec mon voisin. Dans quelques instants, nous accueillerons Philippe Camille Yakwa, le directeur général du FECOM, à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de cette institution. Face à la rédaction, ce dimanche, Philippe Camille Yakwa, le directeur général du FECOM, le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, organise une série d'activités commémoratives à l'occasion de ses 50 ans. À l'évaluation du chemin parcouru, monsieur le directeur général, qu'est-ce que vous célébrez un demi-siècle plus tard?
50 ans, c'est quand même l'âge d'or qui nécessite, de notre point de vue, un temps d'arrêt pour pouvoir faire l'évaluation du chemin parcouru et puis maintenant se projeter dans l'avenir. Alors, ces 50 ans, il faut d'abord le dire, sont placés sous le très haut patronage du président de la République et sont célébrés sur le thème « Le FECOM, outil de solidarité nationale ». Donc, c'est vraiment d'abord ce que nous pouvons dire à l'entame de cette rencontre.
Le programme des festivités mérite que l'on s'y attarde. Vernissage photographique, colloque international, journée du vivre ensemble. Qu'est-ce qui fera la particularité de toutes ces manifestations qui s'étalent pratiquement sur 4 jours? Moment d'évasion ou période de réflexion?
Non, nous avons véritablement placé notre cinquantenaire sur des moments de réflexion. Le FECOM est une institution particulière qui est vraiment au cœur de notre vie au niveau du Cameroun, c'est-à-dire que c'est une institution qui est le socle de l'unité nationale, qui est le socle de la solidarité nationale et qui est le socle également du vivre ensemble. Parce que nous sommes régis par des missions qui nous ont été données et qui ressortissent de la Constitution. Développement harmonieux de l'ensemble des collectivités territoriales décentralisées sur la base de la solidarité nationale, de l'équilibre interrégional et de l'intercommunal, dont ce sont des éléments forts dans le cadre de la construction de notre pays. Et nous avons pensé que cette institution créée en 1974 reste contemporaine dans le cadre de ses missions. Donc nous sommes d'une actualité à nul autre pareil. Il n'y a véritablement pas de ride que le FECOM ait pris depuis sa création. Le processus de décentralisation est arrivé, le FECOM s'y est intégré et s'y trouve véritablement à l'aise parce qu'il est dans le cadre d'une mission fondamentale qui lui a été confiée par la loi communale de 1974. Donc nous sommes à un niveau où nous pensons qu'il faille véritablement réfléchir. C'est pour cela que vous voyez cet ensemble d'activités intellectuelles. Lorsque nous parlons du vernissage de l'exposition photographique, ce qu'il faudrait dire, c'est qu'elle est quand même précédée d'éléments historiques. Comment est-ce que le FECOM a été construit? Comment est-ce qu'il a fonctionné? L'importance qu'il a toujours eue dans la vie politique de notre pays. C'est une institution, par exemple, que le président de la République suit alors qu'il était même Premier ministre. Donc vous allez y voir des correspondances signées du président de la République, mais à l'époque Premier ministre, où des instructions sont données au ministre de l'administration territoriale qui en assurait la tutelle, donc sur le fonctionnement du FECOM, sur ce que le président de la République de l'époque prescrivait également au FECOM. Et la particularité aussi au moment de cette création, il faut dire qu'on y voyait toute l'importance. C'était des ministres qui étaient membres du comité de gestion, l'administrateur directeur général actuel, par exemple, de la SNH était le secrétaire général des services du Premier ministre. Il était membre de ce comité de gestion. Ça veut dire qu'il rendait compte directement au Premier ministre qui, lui, écrivait sur le FECOM au président de la République sur les questions qui concernaient cette institution. Et après, nous avons un ensemble de réalisations du FECOM que nous voulons également démontrer pour voir que nous avons des investissements inclusifs. Nous abordons toutes les questions qui ont trait au développement et également que déjà, avec à l'époque toutes les communes, puisque les missions du FECOM aujourd'hui ont été étendues aux régions, toutes les communes du Cameroun, toutes les régions du Cameroun bénéficient de nos financements. Ça, c'est l'exposition photo. Maintenant, nous avons à la suite un colloque international où nous aurons des éminentes personnalités du monde de la décentralisation à travers l'Afrique. Certaines viendront également d'Europe, pour jeter ce que nous appelons un regard croisé sur les questions de financement de la décentralisation en Afrique. Et à côté de ça aussi, nous avons notre livre d'or qui paraîtra, dont l'intitulé est « Le FECOM maturité » en français, qui est préfacé par le président de la République. Et je dois dire que c'est la troisième fois que nous célébrons des événements. Nous avons célébré nos 40 ans, nos 45 ans, 50 ans, et nous avons toujours eu la chance d'avoir le très important préfacier qui est le président de la République à toutes les paritions de notre livre d'or. Un livre qui aura plus de 400 pages, qui retrace la vie des 5 dernières années et puis qui remonte un peu au niveau historique sur ce que le FECOM a eu à faire. Et ça sera donc une dédicace où nous voulons également qu'il y ait plusieurs personnes qui viennent. Étant donné que pour apprécier le développement, il faut également voir ce qui a été réalisé. Donc nous avons une très grande partie du livre qui est scripturale. Et puis le reste est iconographique pour pouvoir illustrer tout ce qui a été fait. Puis nous avons la soirée de gala, qui est en fait une soirée récréative, puisqu'elle tombera un jeudi et le vendredi, il y aura travail. Donc nous espérons que commençant à 17h, nous pourrons terminer aux alentours de 21h. Et il faut dire aussi, ce qui est très important, que le président s'est fait représenter dans le cadre de cette célébration par le ministre de la décentralisation et du développement local, qui est en même temps notre ministre de tutelle et également assure la présidence du conseil d'administration de notre institution.
Tout un programme, monsieur le directeur général.
Oui, tout un programme, parce que nous pensons effectivement que le FECOM mérite un programme. L'un des points également que j'ai omis de citer tout à l'heure, c'est que nous allons également avoir une journée du vivre ensemble et du souvenir, parce que en fait, les missions qui sont assignées au FECOM sont des missions de vivre ensemble des collectivités territoriales décentralisées. Et nous pensons que cette mission ne peut pas être uniquement externe, c'est-à-dire le FECOM fait pour les collectivités territoriales décentralisées. C'est un vivre ensemble qui doit d'abord se manifester à l'intérieur du FECOM. Dans le cadre de cette journée du vivre ensemble, nous avons demandé à chaque personnel du FECOM de venir en tenue traditionnelle. Et ce qui serait mieux, c'est que chacun ne vienne pas avec la tenue traditionnelle de son aire culturelle.
La célébration de ce cinquantenaire nous donne également l'occasion de nous intéresser à vos missions. Le FECOM est généralement présenté comme la Banque des communes camerounaises, il collecte et redistribue les centimes additionnels communaux. Sur quelle base ces fonds sont-ils alloués aux communes, aux municipalités? Quels sont les critères de répartition?
Ce que je voudrais dire par rapport à l'appellation Banque des communes, Banque des collectivités territoriales décentralisées, c'est un peu réducteur par rapport aux missions. Nous sommes davantage une agence de développement. Ça veut dire que les ressources que nous mettons à la disposition des collectivités doivent atteindre un but, assurer le développement au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Parce que généralement, quand on parle du banquier, vous empruntez de l'argent, que le projet est réussi ou pas, ce n'est pas son problème. Il veut tout simplement le remboursement. Mais une agence de développement, quand elle met des ressources, la finalité et l'objectif est véritablement de voir le bon usage de ces ressources et ce qu'elles ont eu à apporter au niveau local. Nous faisons ce que vous avez appelé cette répartition des centimes additionnels communaux, bientôt répartition aussi des ressources de péréquation des régions, parce qu'il faudrait dire que nous sommes en session parlementaire. Le projet de loi portant fiscalité locale révisée est en discussion au niveau du Parlement. Le gouvernement l'a présenté et nous irons à cette répartition. Mais l'intérêt du FECOM davantage réside dans les financements des projets de développement au niveau des communes et des régions. Donc nous avons pour mission d'assurer la promotion, la délivrance des services sociaux de base. Il faut que les populations aient accès à l'eau, qu'elles aient accès à la santé, qu'elles aient accès à l'éducation, de façon globale qu'elles aient accès au bien-être. Donc nous assurons également une fonction d'assistance-conseil auprès des collectivités territoriales décentralisées. Et aujourd'hui, avec notre développement, puisque nous nouons des partenariats nationaux et internationaux, nous allons vers des programmes plus importants et puis nous abordons plusieurs points maintenant qui concernent les aspects de développement. Nous sommes présents sur toutes les questions qui concernent le genre, la petite enfance. Nous sommes présents sur toutes les questions qui concernent la santé, la nutrition. Donc nous avons véritablement élargi notre spectre d'intervention.
Le chantier est vaste et immense dans un contexte marqué par l'accélération du processus de décentralisation. Quelles sont les priorités du FECOM pour les prochaines années?
Les priorités du FECOM, c'est un peu aussi l'objectif de ce colloque. C'est-à-dire qu'il devrait, dans les actes qui paraîtront après le colloque, donner aussi des orientations à la suite des discussions qui ont commencé en interne et également à la suite de ce que le gouvernement entend lui-même, puisque nous sommes concernés par exemple par la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. Nous avons un plan stratégique qui est celui de notre établissement public, puisque c'est un instrument de financement qui est pertinent et que la pérennité puisse être assurée.
50 ans après, monsieur le directeur général, on imagine le parcours jalonné de difficultés. Quelles sont les contraintes auxquelles fait face aujourd'hui le FECOM dans la conduite de ses missions?
Disons que les contraintes sont véritablement nombreuses et puis nous pensons que sans les contraintes, la justification de notre institution ne pourrait être faite. Donc le premier point, c'est d'abord une question de moyens. Les besoins sont tellement immenses que nous travaillons sur des ouvertures pour avoir des moyens supplémentaires. Nous avons déjà des ressources qui nous proviennent de l'État qui sont d'importantes ressources. Maintenant, nous avons des partenariats. Nous travaillons avec l'Union européenne, nous travaillons avec la Banque de coopération, la KfW, nous travaillons avec la Banque africaine de développement, nous travaillons avec le Crédit foncier du Cameroun, avec le Fonds des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Et maintenant, nous sommes dans un processus d'accréditation au fonds d'adaptation. Donc nous pensons qu'à partir de l'année prochaine, nous pouvons obtenir des fonds provenant du fonds d'adaptation pour pouvoir également aborder les questions climatiques en termes soit d'adaptation ou en termes d'atténuation.
Votre mot de la fin, monsieur le directeur général.
Alors, notre mot de la fin, c'est d'abord des paroles de remerciement. C'est-à-dire que nous remercions le président de la République pour avoir accepté déjà de patronner cette activité du cinquantenaire et en plus de nous avoir fait le très grand honneur de préfacer l'ouvrage sur les 50 ans du FECOM, ce qui est remarquable. Et cela nous donne beaucoup d'encouragement pour pouvoir mieux faire. Et puis, nous souhaitons aussi, à l'occasion de ces 50 ans, remercier le personnel qui a lourdement contribué à l'évolution du FECOM. Et puis nous entendons remercier également nos partenaires et le gouvernement qui nous a toujours accompagnés dans la réalisation de nos missions.
Philippe Camille Akwa, directeur général du FECOM, merci d'avoir répondu à l'invitation de la CRTV.
C'est moi qui vous remercie.
Oh yeah. Le soleil s'élève sur la terre de nos ancêtres et sa lumière éclaire le chemin de nos mères. Nos frères enfants travaillaient pour battre le fer et ramener la joie à la maison de nos pères. Et nous savons c'est les enfants de nos cousines, la famille est grande et cette famille-là, elle s'appelle le Cameroun.
Dimanche midi.
Dimanche midi.
Dimanche midi.
Je ne peux pas être témoin là-haut de voir les terres se diviser. Le Cameroun est un pays riche, protégeons-le jalousement. La politique ne doit pas nous diviser. Elle doit rester une guerre d'idées. Oh, oh, mon gars. La guerre qui parle. Boycott des artistes. Mandien de la paix, oui, je le suis. À qui profite la haine? À qui profite la haine?
Dimanche midi, le dossier de la rédaction.
Discours de haine et désinformation de l'opinion, comment s'en défaire à l'approche d'importantes échéances électorales au Cameroun, dont la présidentielle d'octobre 2025. En page jaune de dimanche midi, le dossier de la rédaction. Des publications à caractère tribaliste, injurieux, voire xénophobes se multiplient dans les réseaux sociaux. Le cyberespace est comme investi par ces fausses nouvelles qui sèment le trouble et perturbe l'équilibre social. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme croit tenir le bon bout pour endiguer le phénomène. Des missions spécifiques sont déployées dans les représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger pour la promotion du vivre ensemble dans un environnement de paix perpétuelle. La clé de l'énigme est à décocher dans ce reportage de Gilles-Claude Mbon. Et tout dit.
C'est un sentiment de peur.
Cette montée en puissance des discours tribaux et même religieux, il y a beaucoup de mensonges.
Pour ces jeunes étudiants à l'université de Yaoundé 2, Soa, la désinformation a un jumeau. Il s'agit du discours de haine. Depuis le début de la crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest en 2017, le brasier de la violence ne cesse d'enflammer la toile. Le pic de cette violence a été atteint en 2018 au Cameroun. C'était lors de la campagne présidentielle. 6 ans plus tard, les déviances font de la résistance. L'association Civic Watch travaille à sensibiliser les masses sur l'urgence de tourner le dos à ces déviances. Ces statistiques révèlent que les jeunes de 13 à 24 ans sont les plus connectés sur Internet et donc les plus exposés à la haine et aux fake news en ligne. Le promoteur de cette association est Desmond Ngala. Selon lui, ces fléaux sont la transposition d'un malaise social.
Les problèmes de gouvernance, les problèmes de sous-développement, mais la communication aussi qui est devenue beaucoup plus rapide. La vie chère en général pousse beaucoup de personnes à se référer au discours de haine, l'accès à l'emploi au Cameroun. Voici les germes de ça.
Insultes sur l'apparence, sur la religion, propos sexistes, tribalisme, xénophobie. Au Cameroun, un jeune sur trois est la victime ou le témoin de ces discours qui fragilisent la cohésion sociale. Mais la spécialité des acteurs de la manipulation en ligne, ce sont des anecdotes brûlantes, mais infondées. Pourtant, l'État n'est pas resté les bras croisés. Des campagnes de sensibilisation sont organisées par le ministère des Postes et Télécommunications, dans les écoles, les associations, pour dire stop à ces dérives. Olivier Niako Wadjore est le sous-directeur de la promotion et de la vulgarisation des TIC au ministère des Postes.
Le Cameroun a opté pour un libre accès aux réseaux sociaux, mais prône une utilisation responsable de ceux-ci. C'est tout le sens de la campagne nationale de sensibilisation à l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Plusieurs séminaires ont été organisés à leur attention, qui ont porté notamment les techniques de vérification d'informations.
Au registre des multiples actions fortes, il y a celle de la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Il y a quelques jours, l'institution s'est déployée à l'étranger. L'objectif est de voir comment se portent les idéaux de paix, de vivre ensemble dans certaines représentations diplomatiques du Cameroun, mais aussi de recueillir la contribution de la diaspora camerounaise pour faire reculer la haine et la désinformation en ligne en cette veille d'année électorale. Professeur Vincent Joseph Toudaï-Baudet, géostratège, et Desmond Ngala de Civic Watch.
On va là-bas pour apprendre de l'expérience des autres, s'adresser à nos compatriotes qui sont là-bas, leur donner la véritable information aussi sur le pays, parce que beaucoup aussi parlent parce qu'ils peuvent être manipulés. Si vous êtes au Canada, par exemple, depuis 20 ans, votre village a été complètement abandonné, il n'y a pas d'école et tout le reste là, ça peut être faux. Comme vous n'avez pas la bonne information, ça va vous tendre les nerfs. Et après, vous êtes facilement récupérable par des groupuscules qui véhiculent donc ce genre d'idéologie.
Ce sont des Camerounais qui sont sortis d'ici et ils ont vu le monde autrement. Le niveau de développement dans certains pays où ils se trouvent, d'ailleurs que certains parmi eux peuvent maintenant voter et puis ces communications soient beaucoup plus fréquentes, et que ça pousse la diaspora vraiment à venir sur la table et que les recommandations qui sont prises soient vraiment implémentées. On voit aussi que cette diaspora ne soit pas celui-là qu'on part, on pique les diasporas connues, mais que ça soit ouvert à tous les Camerounais, sans exception, sans bord politique.
En novembre 2019, le code pénal camerounais a été modifié. Toute personne coupable de propos haineux à caractère tribaliste est passible d'un à deux ans de prison et d'une amende pouvant aller jusqu'à 3 millions de francs CFA.
Dimanche midi, l'invité de la rédaction.
Contre les discours de haine, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme mène plaidoyer auprès des personnels des représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger et partant de la diaspora. Ottawa au Canada, Pékin en Chine, Riyad en Arabie Saoudite et Abidjan en Côte d'Ivoire font partie des destinations ciblées, engagées à fond. Dans la campagne de sensibilisation, la mission y évalue également le niveau de promotion et d'usage de nos deux langues officielles. Face à la rédaction, le secrétaire général de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, Dr. T. Cornelius Assafor, a été joint au téléphone par Larissa Engon.
Docteur T. Cornelius Assafor, bonjour.
Bonjour madame et merci de m'inviter à votre prestigieuse émission.
Une mission de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme sonde depuis le début de la semaine le niveau de valorisation des deux langues officielles. Alors pourquoi cibler les représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger ?
Comme vous le savez, les représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger sont des institutions publiques. Au sens de la loi du 24 décembre 2019 portant promotion des langues officielles. Et comme la Commission est investie de la compétence matérielle et territoriale sur l'ensemble des institutions publiques du pays, c'est à bon droit que l'institution s'attelle à l'évaluation de la mise en œuvre de cette importante politique publique dans ces entités. Par ailleurs, pour mieux étayer la thèse de la compétence territoriale, je voudrais me référer au principe internationaliste de l'extraterritorialité qui voudrait que par extrapolation, le territoire des représentations diplomatiques soit assimilé au territoire du Cameroun. Partant de là et sur la base des programmes annuels dûment approuvés par le président de la République, son Excellence Paul Biya, la CPBM procède depuis bientôt 3 ans à l'évaluation de la mise en œuvre de l'importante politique publique de la promotion des langues officielles dans nos représentations diplomatiques à l'étranger. Nous l'avons fait à Abuja, Londres, Paris, Bruxelles, Bonn, Pretoria, Washington. Nous sommes en train de le faire à Ottawa, Abidjan, Riyad et Beijing ces jours-ci.
Alors Ottawa au Canada, Pékin en Chine, Riyad en Arabie Saoudite et Abidjan en Côte d'Ivoire, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui a concouru au choix de ces destinations quand on sait que la diaspora camerounaise est également largement représentée dans d'autres pays?
Le choix est d'abord basé sur des considérations telles que l'importance de la population de nos concitoyens dans le pays d'accueil, la nature stratégique du pays sur le plan culturel, économique et autres dans le monde, et le nombre est limité chaque année parce qu'une année budgétaire n'a que 12 mois et que le budget alloué à cette activité est bien cerné et limité en volume. L'année prochaine, la Commission choisira d'autres représentations diplomatiques et à terme, l'ensemble de celles-ci sera parcouru au fin de la sensibilisation, la dissémination et l'évaluation au regard de la mise en œuvre de la politique nationale de promotion des langues officielles, de la lutte contre le discours de haine et la xénophobie qui constituent de sérieuses entraves à la paix, au vivre ensemble harmonieux, ainsi qu'à la cohésion sociale dans notre cher et beau pays. Il s'agit donc, comme vous pouvez le constater, d'un processus dynamique et continu.
Il y a surtout un véritable défi de vulgarisation de la loi portant promotion des langues officielles au Cameroun. Quels aspects de cette boussole légale mettez-vous en avant dans le cadre de ce déploiement à l'étranger?
À l'étranger, nous insistons sur la communication avec l'usager, sur la communication à travers l'ensemble des documents produits par les représentations diplomatiques et à travers l'interaction verbale entre le personnel des représentations diplomatiques et nos concitoyens installés à l'étranger. Ils ont le droit d'être servis dans la langue de leur choix et le personnel de nos représentations diplomatiques à l'étranger est obligé de leur rendre les services dans la langue que ses concitoyens ont choisie. Et en ma qualité de secrétaire général de l'institution en charge de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme dans notre pays, et si je m'en tiens aux réactions multiformes provenant d'horizons et de milieux divers, je peux sans risque de me tromper conclure que nous réalisons des avancées significatives. C'est en bonne voie, d'après nos évaluations.
À quoi mesurez-vous les impacts? Vous le précisiez il y a tout juste un moment, cette mission s'inscrit dans la continuité d'une précédente expédition du genre. Quels sont les retours que vous avez? Qu'est-ce qui a changé dans ces missions après votre passage, de manière pratique?
Les nouvelles qui nous parviennent font ressortir une volonté réelle des chefs de mission diplomatiques ainsi que de leurs collaborateurs à travailler dans les deux langues officielles, à servir les usagers de nos représentations diplomatiques dans les deux langues officielles, à publier les communiqués ainsi que tous les documents des représentations diplomatiques dans les deux langues officielles. Et nous pensons que cela provient en partie des missions que la Commission a effectuées dans ces différentes représentations diplomatiques.
Au-delà des langues officielles, Dr. Chi Cornelius Assafor, la lutte contre le discours de haine figure également dans le chronogramme d'activité. L'enjeu d'un tel déploiement,
bien évidemment,
imagine, donc, a aussi trait au contexte veille d'échéance électorale d'envergure. Quelle corrélation y voyez-vous?
Une année électorale vient avec un certain nombre de mots, dont la recrudescence du discours de haine et la xénophobie. Conséquence parfois de l'instrumentalisation de certaines politiques indélicats. La Commission en a pleine conscience et s'apprête à intensifier et à densifier sa stratégie de lutte contre le discours de haine et la xénophobie au Cameroun au cours de l'exercice 2025. Les organisations de la société civile qui exercent aux côtés de la CPBM auront un rôle important à jouer dans ce sens, surtout du fait que la Commission compte accroître leurs moyens de déploiement et d'intervention sur l'ensemble du territoire national et en cette année électorale.
C'est ici que s'achève cet entretien. Dr. Chi Cornelius Assafor, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Merci d'avoir répondu aux préoccupations de Dimanche Midi.
Le plaisir était le mien, madame. Merci de m'avoir invité une fois de plus à votre prestigieuse émission.
Dimanche midi, sport.
Au terminus de dimanche midi, DM Sport. Nous sommes rendus à 6 jours de la reprise du championnat national de football pour le compte de la saison 2024-2025. Le match d'ouverture est prévu samedi 7 décembre au stade municipal de Melun. Avec au programme le derby local entre Stade Renard et Aigle du Mungo, la Fédération camerounaise de football appelle les acteurs à faire triompher le professionnalisme. L'attente a été longue, une trêve de près de 8 mois, salaire de joueurs et des arbitres, financement des clubs, respect du calendrier, sécurité dans les stades et fair play entre les parties. Les acteurs se disent préoccupés par tous ces aspects qui garantissent la reprise sereine du championnat. DM Sport, balle au pied, avec Samuel Guillon. Bonjour et bon dimanche, Samuel.
Bonjour et bon dimanche, Florence. Joueurs, arbitres, clubs, FECAFOOT et CTFP, les protagonistes du football professionnel au Cameroun ont chacun à son niveau tiré les leçons de la précédente saison. Conséquence, des innovations en vue d'une amélioration notoire du championnat qui débute le 7 décembre prochain. Faustin Blaise Mbida, secrétaire général du comité transitoire du football professionnel.
Des dispositions sont prises pour que ces clubs-là puissent être accompagnés et que le championnat se joue. Pour cette saison, le président, compte tenu des expériences des autres championnats, améliorer et organiser l'un des meilleurs championnats possibles pour cette saison. À chaque fois, nous aurons les hommes du match pour tous les matchs. Le joueur du mois, l'équipe du mois, ces joueurs-là, non seulement ils seront primés, mais il y aura un accompagnement avec nos partenaires. Ce qui concerne les clubs, nous voulons que cette année soit encore l'une des meilleures saisons et que les clubs soient plus professionnels.
Des mesures sont prises pour juguler au mieux les cas de double identité des joueurs. Une situation confuse à l'origine des grincements de dents au cours de la dernière saison.
Cette fois-ci, compte tenu de l'expérience que nous avons vécue l'année passée, on n'aura plus ces situations-là. Nous avons envoyé au niveau des clubs toutes les licences, tous les joueurs qui ont été enregistrés. Chaque club a au moins 35 joueurs. Toutes ces listes-là ont été publiées. Dès que nous aurons commencé le championnat, on ne va plus revenir sur les réserves des qualifications. En ce qui concerne les identités des joueurs,
accord presque parfait entre la Fédération Camerounaise de football et les clubs. Objectif, redonner au football camerounais toute sa grandeur. André Kemeny, membre de l'équipe administrative de Stade Renard de Melon.
Nous, les dirigeants des clubs, il fallait qu'on soit fixé, par exemple, sur nos rapports avec les sponsors. Les quotas des années antérieures qui n'ont pas été entièrement payés. Des deux côtés, chacun a dû mettre un peu d'eau dans son verre pour que le championnat puisse reprendre. Plus ça traîne, plus c'est les acteurs directs du football qui en souffrent, qui sont et les présidents du club et les joueurs. La tutelle a dû envoyer le virement dans les comptes des équipes. La fédération est consciente qu'avec les clubs, ils doivent travailler la main dans la main. On est parti pour avoir un bon championnat. Chaque club doit avoir un compte bancaire. Le salaire du joueur doit être viré. La fédération attend que nous, les présidents de club, nous produisons des rapports financiers.
La FECAFOOT met un point d'honneur sur le règlement financier et entend honorer ses engagements vis-à-vis des clubs soumis à l'impératif de la transparence dans la gestion des fonds reçus.
Sur la base de ce qui a été fait l'année passée, ça dit que nous étions à 48 millions. Nous pensons que cela sera reconduit ou bien alors ce sera quelque chose de plus. Mais ça, c'est le président de la Fédération Camerounaise de football qui pourra l'annoncer peut-être au cours de la semaine prochaine. La préoccupation du président de la Fédération Camerounaise de football, c'est de mettre le joueur au centre de tout parce que c'est le joueur qui produit ce spectacle-là, c'est le joueur qui doit être à l'aise.
L'ensemble des clubs du Septentrion bénéficient d'un soutien supplémentaire du fait de leur éloignement. Fernand Sadou, président de Coton Sport de Garoua.
Un soulagement, en quelque sorte de l'espoir, parce que voyager peut-être en route ou bien par train, faire une dizaine de jours à Yaoundé, ça peut tourner autour de 8 à 10 millions de francs CFA que nous pouvons dépenser. Parce qu'il faut l'hébergement, s'il faut prendre l'avion, il n'y a pas de convention, nous n'avons pas d'accompagnement de ce côté. Il y avait un accompagnement au niveau de la compagnie aérienne ou bien peut-être le chemin de fer, on ferait encore plus d'économies parce que là, si on nous met plein tarif, vous savez, c'est pas moins de 5 millions pour que l'équipe fasse un voyage aller-retour. C'est pas facile pour un club qui ne compte que peut-être sur les dons, des legs, des subventions et autres. C'est pas évident.
Face aux charges incompressibles et de plus en plus pesantes pour les clubs, il y a lieu de réinventer le modèle du professionnalisme adapté aux réalités du Cameroun.
Il faut repenser vraiment le fonctionnement des clubs professionnels au Cameroun. Il faut mettre des mécanismes qui puissent permettre aux clubs de s'autofinancer.
Les arbitres, acteurs majeurs pour le succès du championnat, réclament de meilleurs traitements. Robert Batty II, instructeur en arbitrage.
Beaucoup d'arbitres ont des soucis au plan social. Qu'au moins, en début de cette saison, qu'on leur assure la régularité du paiement de leurs indemnités de match. Vraiment, ça fera que le climat sera serein, le moral sera apaisé, la mentalité sera autre, ça sera galvanisateur. Mais ils sont prêts à accomplir avec maestria le devoir qui est le leur.
Faustin Blaise Mbida, secrétaire général du CTFP.
En ce qui concerne le traitement des arbitres, le président de la Fédération Camerounaise de football a instruit que à chaque fois que les arbitres se déplacent, ils doivent entrer en possession de leur avoir au moins une semaine avant. Lui-même va le suivre personnellement.
16 clubs pour le championnat MTN Elite One et 17 pour le championnat MTN Elite Two. Les matchs vont se jouer dans les stades mis à disposition par l'Observatoire national des infrastructures et équipements sportifs ONIES. C'est un club préoccupé par l'enjeu vital de multiplier des sources de revenus, enfin homologuer leur propre stade pour les matchs à domicile. Les clubs ont intérêt à donner sens au vocabulaire football professionnel. dans l'administration, la gestion technique et financière des équipes pour espérer améliorer le niveau de jeu et donc les résultats dans le monde compétitif du football moderne.
Dimanche midi, édition du 1er décembre 2024, entre en gare. C'était une présentation de Florence Neque. Mise en onde de Chrétien Foucault, Daniel Mamia. Régie d'antenne, Fadima Tou, Lamsi Crayo. Radio assistée par ordinateur, Christian Bessigué. Réalisation, Rose Coco, Coralie Laetitia et Mimi. Post-production, Yannick Ayama. Coordination, George Colomb, Valérie Dikos Oumarou, directeur des rédactions radio. Supervision, Madeleine Sopikoto, directeur central du pôle radio. Supervision générale, Charles Ndongo, directeur général de la CRTV. Vous pouvez réécouter cette édition cette nuit lorsqu'il sera minuit 15 minutes ou sur Internet à l'adresse www.crtv.cm. Mesdames, Messieurs, bon dimanche. À bientôt sur cette antenne.